Chase you out of earth. Yeah.
Radio G. www.radio-g.fr.
Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Sport, l'émission sportive de Radio G. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'été, la dernière, sûrement avant la reprise prévue pour le début septembre. On verra peut-être la semaine prochaine une émission.
On va peut-être en faire une histoire de clôturer la saison.
Ouais, et puis reprendre la main avant la rentrée.
Voilà, peut-être présenter la nouvelle équipe.
Exactement. Enfin. J'allais y venir là, c'est sûrement la dernière avant la reprise prévue pour début septembre, avec une toute nouvelle saison, une toute nouvelle équipe et avec la même évidemment détermination de parler de sport angevin sur les ondes du 101.5 FM. L'année prochaine, nous aurons Cédric avec nous qui est ce soir à la régie. Salut Cédric.
Salut tout le monde, ouais.
Moi, tu prolonges ton contrat ?
Je prolonge, j'ai négocié okay. Un petit peu. Non, en tout cas, ouais, pour l'instant, l'idée c'est au moins de pousser jusqu'au moins 2024, si on peut. Quoi.
Pourquoi pas ? Faustin, également, ce sera le nouvel arrivant, même si on l'a déjà bien vu cette année. Salut Faustin, comment ça
va ? Salut, bah, ça va très bien.
Tu vas nous proposer une chronique sur Bill Russell,
ouais,
c'est ça ?
Exactement.
Qui est donc, je crois, décédé il y a deux ou trois semaines.
Le 31 juillet.
Et donc voilà, on parlera de ça un peu plus tard dans l'émission. On aura le temps de revenir sur donc toute l'actualité, notamment sur bon les clubs angevins, même si pas mal sont encore en phase de préparation, comme par exemple l'UFAB ou l'EAB qui préparent donc leur nouvelle saison avec évidemment plein de grands défis à relever cette année. Ils viennent de reprendre le chemin tranquillement des entraînements pour que voilà ces nouvelles équipes, les nouvelles joueuses ou joueurs se familiarisent avec ne serait-ce que la salle et puis surtout les joueurs et les joueuses qui sont déjà là. Quant au SCO Handball, ils ont repris dans leur nouvelle salle qui est flambant neuve dans l'ancienne patinoire du Haras.
Ça y est, c'est déjà fini.
Et c'est déjà fini et ils vont prendre cette année. Donc voilà, ils auraient bien aimé être en Pro League, c'est-à-dire être en deuxième division dans cette salle. Malheureusement, ils seront en National 1 et donc voilà, peut-être dans cette salle qu'ils vont remonter. On verra ça donc cette saison.
Ouais, puisque les travaux se sont faits quand même assez discrètement au final.
Ouais, c'est vrai que on entend peut-être moins parler et donc voilà, ils vont laisser un peu plus de place pour le basket avec donc l'EAB en Pro B et l'UFAB en LFB et surtout en Europe. Donc voilà pour la reprise qui se fait tranquillement pour les sports en salle. Cédric, pour l'Éduc, tu me parlais avant de débuter l'émission d'un trophée déjà gagné.
La coupe d'été, là, je sais plus comment ça s'appelle exactement.
C'est un espèce de trophée de champion, donc contre Rouen.
Ouais, ça a été avec plusieurs clubs. Je sais qu'ils ont disputé 3 matchs.
Ok.
3 victoires.
Ok.
Dont un contre. Alors, il me semble qu'il y avait Cergy.
Ok. Il y avait Grenoble.
C'est peut-être Grenoble qu'il y avait.
Ouais, Grenoble.
Rouen.
Ok.
Et le troisième match, je sais plus. Peut-être qu'il y a un club étranger.
En tout cas, voilà, ça commence plutôt
mais,
bien.
Mais ouais, en tout cas, ouais, non.
En sachant qu'il y a eu ce changement de coach qui aurait pu déstabiliser l'équipe, mais au final, ça s'est bien passé.
Bon, après, c'est un coach qui est habitué.
Oui, qui est habitué de la Ligue Magnus.
Donc, il y a une petite incertitude, bien sûr, comme d'habitude, quand il y a un changement de coach. Mais là, en tout cas, sur ces matchs de préparation / officiels. Voilà, c'est, enfin, il y a déjà des résultats. Il y a pas mal de matchs de préparation qui vont arriver là.
Ouais.
Donc déjà août là, ça, fin août il y en a. Septembre il y a déjà des beaux matchs. Donc
la S-Park va ouvrir.
Ouais, ça a commencé assez vite. Donc ils vont arriver tranquillement là, au début de la saison.
Ouais. Pour le début de la Ligue Magnus et pourquoi pas faire aussi bien, voire mieux que l'année dernière avec donc cette Coupe de France, cette ce titre de vice-champion de France de Ligue
Magnus. Je pense que la priorité va être encore de d'aller chercher cette première Ligue Magnus.
Hein. Bah oui, de l'histoire du club quand même. Un peu comme comme les Loups d'Angers qui ont poursuivi ce rêve de d'un jour être champion de France et qui l'ont enfin fait cette fois-ci deux années de suite en plus en 2021 et plus 2022. Donc voilà, au programme de l'émission, on l'a dit, on va parler un peu de sport local. On l'a déjà un peu fait, mais on va parler du SCO. Et on embrayera tout de suite sur donc la Ligue 1, les différents résultats qu'il y a pu y avoir depuis le début de la saison. Parce que c'est vrai qu'il y a deux semaines, on n'a pas tellement parlé, mais on va pouvoir voir un peu les équipes qui se démarquent depuis le début de cet exercice 2022-2023. On parlera pourquoi pas un peu de tennis avec Caroline Garcia qui retrouve un niveau intéressant avec cette victoire lors du Masters 1000 de Cincinnati. On parlera basket, pas seulement lors de ta chronique Faustin, mais également un peu avec donc les actualités, avec l'équipe de France qui prépare l'Euro 2022, mais également un niveau des transferts avec Kevin Durant qui va rester au Brooklyn Nets. On te demandera ce que t'en penses. On pourra parler vite fait un petit peu de Formule 1, Cédric, te demander un peu ton avis. Également d'athlétisme, puisque l'équipe de France disputait les championnats d'Europe de Munich. Alors ils ont brillé sans éclat, on va dire, avec quelques médailles. Donc c'est déjà un peu mieux que...
C'est peut-être un peu mieux en termes pécuniers,
c'est ça, mais
comparé aux championnats du monde, mais
pas de titre européen, voilà. Ce qui est un peu dommage. Et puis voilà, ils auraient pu espérer peut-être beaucoup mieux pour certaines disciplines. Donc on parlera un peu de tout ça, et puis pourquoi pas faire un autre point sur l'ensemble des championnats d'Europe, parce que c'est vrai que c'était, enfin on parlait en tout cas du principe de regrouper les championnats d'Europe, parce que ça a eu un bon succès, je pense, au niveau audiovisuel, pour mettre en lumière certaines disciplines.
Ah, je pense que le service public, oui, en termes de sport,
cet été,
on pouvait se régaler, ouais. Hein, parce qu'il y a eu aussi
le Tour de France,
il y a eu le cyclocross aussi dans...
Cyclocross, oui. Il y a eu les mondiaux
qui sont enchaînés avec, ouais, avec l'Europe.
Donc voilà, on va pouvoir parler un peu de tout ça en cette fin d'été. On va commencer donc au SCO. Les Angevins ont repris donc le chemin des terrains depuis trois journées maintenant. Le début de saison est, on peut le dire, comme espéré, avec un début de saison compliqué. Seulement 2 points récoltés en 3 matchs et une correction à domicile contre Brest 3-1 ce dimanche. Alors les seuls motifs d'espoir dans ce début de saison terme, les attaquants Sofiane Boufal et Amine Salama qui sont sortis du banc pour être décisifs, notamment contre Auxerre. L'international marocain a magnifiquement servi l'ancien Dunkerquois pour égaliser, puis ce fut le scénario inverse pour réduire le score contre les Brestois. Seulement 3 buts inscrits pour 5 encaissés, le bilan est plus que mitigé pour cette entame d'exercice 2022-2023. Alors messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison? Faustin, t'es allé les voir toi donc pour la première journée, sur le reste, peut-être t'as regardé peut-être d'autres matchs.
J'y étais aussi.
Voilà.
Le reste.
Tu étais abonné eux maintenant en fait.
Ouais,
mais du coup, ouais, qu'est-ce que t'en as pensé?
C'était
beaucoup plus calamiteux, on va dire.
Ouais, clairement. Le SCO a beaucoup moins joué. L'arbitrage était beaucoup plus contre nous aussi, mais il y a pas que ça. Hein. Clairement, on se prend 2 buts sur corner. Je sais pas, c'était pas bien joué.
Je crois que sur l'ensemble des 2 matchs, ou enfin sur les 3 matchs,
ouais,
c'est 4 buts sur corner.
Ouais, j'ai vu cette statistique, ouais, également, parce que Auxerre, on a pris effectivement 2 buts sur corner. Ouais,
bah voilà, ce sera à revoir par le coach.
Ah oui, je pense qu'il va s'en charger, en tout cas, il faut l'espérer.
Pareil, de plein de petites erreurs techniques bêtes où on perd des ballons, on les envoie en touche. On avait du mal à trouver du relais au milieu de terrain aussi, ce genre de choses. Heureusement que le banc a fait le travail.
Voilà,
c'est ça. Boufal et
Salama.
Voilà, exactement. Ça a fait beaucoup de bien, mais après, ils ont marqué ce but. Il y avait 3-1. Et il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a pas eu de remotivation de toute l'équipe. C'est resté assez plat tout le match.
Sûrement du cause du fait qu'il soit à 10 contre 11 avec donc ce carton rouge reçu par le Bosniaque Sabanovic.
Carton rouge
donc un peu sévère.
Quand on voit certains angles.
En fait, on va dire qu'il se, pour décrire un peu l'action, il se jette très fort et s'il touche le joueur, on va dire, ça peut être dangereux, mais au final il le touche pas tellement.
Il touche pour, enfin ça dépend de l'angle, mais moi j'ai vu côté, on va dire, prise de vue de dos du joueur
qui est, ça reste un tac dangereux, mais
pour moi il, c'est le joueur de Brest qui est en retard. On le voit clairement quand il tac, il touche le ballon largement avant. Au pire c'est au contact, on va dire dos contre jambe, qui est derrière le Brestois se chute quoi.
Et ce qui est, ce qui est assez en plus bizarre, c'est qu'il y a la VAR et donc que l'arbitre peut vérifier ces images. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu de revisionnage.
Un jaune, ça aurait été possible, j'ai envie de dire.
Ouais, parce que je pense qu'il a été trompé clairement par son impulsion.
Justement, de la tribune.
Moi je l'ai dit, quand il attaquait, j'ai dit, ah là, il va prendre son jaune. Bah, il a pris son rouge, quoi.
C'est vrai que c'était.
Ça a crié dans la tribune, quoi.
Mais ouais, surtout que Savanovic, il a un peu de mal depuis le début de saison. Et donc, c'est vrai que ce rouge ne met pas en plus les Angevins sur le bon rythme, surtout pour essayer de recoller au score. Parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait déjà 2-0 à ce moment-là du match.
Donc, non, il y avait 1-0. Il y avait 1-0 sur l'action qui vient.
Ouais, donc voilà.
Et qui est aussi litigieuse avec une touche. Qui aurait pu être sifflé,
En tout cas, il y a eu pas mal de rouges en Ligue 1 sur ce
et en Ligue 2 aussi
en Ligue 2 également
dans la même journée.
Ligue 2 également et certains sévères, d'autres moins. Mais en tout cas, voilà pour le SCO. Est-ce que messieurs, quels sont à votre avis les changements à faire? Est-ce qu'il y a du recrutement? Il reste quelques jours, il nous reste 8 jours avant la clôture du mercato. Quels sont les renforts à obtenir, même si on ne sait pas.
Enfin, faudra une défense un peu plus âgée. Hein. C'est bien beau d'avoir des jeunes joueurs, mais enfin, c'était pas l'année pour faire ça, j'ai envie de dire.
Le seul joueur qui paraît un peu expérimenté, donc Blažić, le Sloven, a complètement pris l'eau sur ce match contre Brest. Il prend un grand pont sur le deuxième but. Il se fait un peu avoir. Puis pas au marquage sur le premier. Enfin bref, c'est compliqué pour lui.
C'est clair.
Et donc ça commence à faire beaucoup pour les Angevins. Il y a eu une petite recrue jeune justement qui vient du Paris FC, qui a fait plus de 30 matchs au Paris FC. Donc à voir ce que ça donne. Mais effectivement, peut-être plus de tauliers. Et je pense qu'on a peut-être trop vendu en défense l'année dernière. Je sais pas ce que t'en penses, Cédric. Les Thomas Traoré, ça.
Mais problème,
ça manque cette année, quoi.
Ça manque à l'arrière, ça manque au milieu, ça manque, j'ai envie de dire aussi à l'avant, au final. C'est le problème. Et sur le banc, je sais pas encore, c'est un peu difficile de voir s'il y a des vrais leaders
d'attaque.
D'attaque. Puis même de, enfin, simplement des leaders.
De vestiaire.
Enfin, même sur le banc, si t'es sur le banc, tu peux envoyer Lagna qui a tes coéquipiers. Enfin, et après, oui, derrière, on sait pas pour l'instant qui est le taulier au niveau du vestiaire. Donc, il y a quelques anciens, je pense, c'est eux qui vont faire le taf.
Bouffal, peut-être. Capel.
Ouais.
Mais peut-être c'est pas des gens qui ont du charisme comme avant elles avaient les autres.
Le problème c'est que le SCO a peut-être vu aussi un peu gros dans son projet de restructuration du stand.
Ouais.
Hormis je crois la première journée où c'était vraiment bien rempli. Là ce week-end c'était 8000 on va dire en gros pour 17000 places au total.
Tu te sentais un peu seul dans les tribunes, faut
dans ma tribune moi ça allait, mais quand je regardais en face c'était
ce que je trouve qui est choquant, c'est même si c'est la tribune partenaire et que c'est la tribune présidentielle, qu'il n'y a personne dans la tribune, que surtout quand tu regardes la télé en fait il y a personne. Et c'est assez choquant parce que tu te dis, ok, c'est l'image de ton club d'avoir une belle foule et tout. Et là, il n'y a personne. Parce que c'est pour les partenaires et tout. Et ils ne viennent pas au match.
Ils sont en hauteur. Hein,
ils sont en hauteur.
Ils sont en hauteur dans les espèces de petites cahutes.
En hauteur, on peut réserver. Mais justement, l'étage du bas, on peut pas le réserver, c'est réservé aux
invités. Au VIP. Et en fait, lorsqu'on n'a pas cette VIP, je pense qu'il y a une politique à revoir là-dessus, ne serait-ce que, en fait, en termes, comme je disais, de communication, montrer que ta nouvelle tribune est vide, c'est quand même assez triste.
Après, on est encore sur une période de vacances, donc on va voir d'ici là.
Oui, bien sûr.
La semaine prochaine, j'irai dans les 15 jours.
Pour les gros matchs, je pense qu'il y aura peut-être plus de
monde. Enfin, en termes de gros matchs dans la saison, c'est que 3-4.
Ah bah oui, c'est ça, bien sûr.
Et ça veut dire, on sait comment ça se passe derrière, ça veut dire augmentation des tarifs des places.
Ah bah en plus, oui.
Là, il y a eu un geste apparemment fait pour cette saison. Les prix ont été un peu revus à la baisse, apparemment.
Ouais.
C'est compliqué. On sait que le public en juin, déjà de base, est compliqué amener dans les différentes disciplines, mais là c'est vrai que d'avoir investi autant, dommage. Là pour l'instant ça paye pas quoi.
Il faudrait une petite rébellion du côté des supporters en juin.
Et puis le spectacle nous donne pas envie d'y aller quoi.
Ah bah en plus oui,
il y a aussi.
Je pense qu'en vrai c'est un vrai enjeu, parce que si ton équipe joue bien, quand le club est monté, il y avait des vraies affluences sur la dernière journée notamment, des trucs comme ça, et notamment les popos en Coupe de France, etc. Donc à voir, mais effectivement moi je trouve que le début de saison, ce qui est flagrant, même si il y a eu 3 buts en 3 matchs, enfin c'est quand même pas assez en Ligue 1, surtout une Ligue 1 qui devient de plus en plus homogène. C'est l'attaque qui est vraiment, je trouve, assez triste. Diony qui a pas fait une bonne saison depuis, franchement, depuis peut-être Dijon. Et encore à Saint-Etienne, il était même pas si excellent que ça. Il y a Unou qui fait un retour, mais que je trouve assez anecdotique. Moi je trouve ça très compliqué, la façon dont l'attaque est gérée. Et qu'il va falloir plus. Justement, c'est pour ça que j'en parlais au début, c'est que Boufal et Salama, pour moi, sont des très bonnes, de très bons éléments qui, pour moi, doivent être titulaires sur cette saison. Et que Johnny, je le vois plus en joueur de complément, etc. Mais et Tube aussi, pareil, qui est en manque de confiance. Un peu comme le cas Bernardoni, c'est-à-dire qu'il revient de Saint-Etienne d'un prêt. Et il revient comme de par magie être titulaire dans cette équipe sans forcément être engagé à fond dans le 11, dans le club quoi. Donc c'est ça qui est assez bizarre, la gestion.
C'est un petit peu, alors autant pour un joueur de, on va dire, haute qu'un gardien, ça peut se comprendre, un retour, voilà, que le réintègre, mais quand on voit la galère que c'était en termes de gestion des gardiens.
Bah ouais,
et première chose qu'on fait là, c'est
on replonge
un gardien qui est parti.
C'est ça.
Qui est en désaccord en plus ou moins avec le club. Et là, on le remet titulaire. C'est quoi?
On le remet titulaire en sachant qu'on a recruté un joueur
en plus
pour le mettre titulaire et qu'on lui a dit tu seras titulaire.
C'est ça.
Et on se retrouve avec donc lui sur le banc. Et c'est assez dommage. C'est vrai que la gestion. Et au final, bon, il prend 5 buts, Bernardoni. On verra si ça change dans les. Même s'il a fait un bon premier match, on peut lui donner ça. On verra donc dans les prochains matchs si la tendance est peut-être changée par rapport à ça. Au niveau de la Ligue 1, on peut faire la petite transition par rapport aux arbitrages. On parlait du carton rouge un peu sévère à l'encontre du Bosniaque Sabanovic du côté du SCO. Mais il y a aussi pas mal de rouges. Déjà, c'était. On n'a jamais eu ça depuis 30 ans. Il y a eu 11 cartons rouges. Petit big up, j'ai plus mon terme, mais c'est pas grave. Petite mention, voilà, mention spéciale, c'est ça, mention spéciale pour Montpellier-Auxerre avec 4 cartons rouges, ni plus ni moins, du côté de Montpellier, Fayad et Savanier, et du côté de Auxerre, Mbanyang et Nuno D'Acosta. Faut savoir que Mbanyang donc est arrivé cette semaine à Auxerre. Il est rentré à la 46e minute, donc à la mi-temps, et au bout de 6 minutes, il prenait donc son carton rouge, un retour express en Ligue 1 pour lui. Parmi les autres cartons rouges qu'il y a eu, on va peut-être pas tous les citer, mais en gros, il y a eu notamment des carton rouge assez sévère sur certains matchs, donc voilà, ça a mis parfois certaines polémiques par rapport à ça, et surtout en Ligue 2 également. Donc il y a eu Saint-Etienne qui a passé un sale week-end. C'est vrai que je veux pas remettre le couteau dans la plaie,
trois cartons rouges, et puis ne serait-ce que même le premier, il est discutable. Enfin, c'est il y a des décisions d'arbitre.
Le deuxième, pareil.
Deuxième.
C'est Cafaro qui s'énerve sur ouais. un, qui met un coup de coude. Mais je crois qu'il le rate un peu. Donc
en
moi,
fait,
c'est
un double jaune.
Cafaro.
Je crois, ouais, de mémoire, il se prend un premier jaune.
Ok. C'est pas le premier justement qui a un double jaune. Mais bref, en tout cas, voilà.
Décision un peu infernale. Et alors déjà que Saint-Etienne, pareil, c'est un peu comme le SCO en termes de recrutement.
C'est très léger, ça vend beaucoup.
Ça n'a pas encore vendu assez.
Oui, c'est ça.
Il y a encore tous ceux qui voulaient partir qui sont encore là. Enfin, c'est un peu compliqué le dossier vert. Mm-hmm. Ce qui fait que Saint-Etienne se retrouve bon dernier avec, moins 1 pour l'instant.
Parce qu'ils ont eu des sanctions. Et donc ils ont
avec
pris
toujours le risque aussi de se prendre 3 points de pénalité. Enfin,
ils ont pris donc 6-0.
Très compliqué. Et si l'arbitrage s'y met, oui. Enfin, ça a été
6-0 contre le Havre. Et donc le dernier rouge qui pour le coup ne souffre pas de contestation avec Étienne Green qui sort n'importe comment le Havrais et donc qui se fait expulser. Et donc voilà pour les cartons rouges. Il y a aussi hier. Eu une petite polémique au niveau du match de Ligue 2 entre Grenoble et Bordeaux. Alors, il y a déjà eu deux rouges dans la partie, puis surtout celui de Mwanga, le Bordelais, qui a été très contesté parce que voilà, un peu comme celui, il me faisait penser justement à celui du SCO où il le touche pas forcément, mais le tacle paraît dangereux. Donc voilà, et donc à voir ce que la Ligue 1 va faire par rapport à toutes ces décisions.
C'est là qu'on se dit, il y a quand même un gros souci de. Je sais pas si c'est le règlement ou si c'est les arbitres qui sont pas assez formés ou s'il y a une plus grosse tension que d'habitude dans le milieu du foot, mais là on est sur Ligue 1, Ligue 2 à quasiment 16 cartons rouges environ. Le week-end d'avant, je crois qu'il y a eu quelques rouges aussi distribués. Ça avait déjà commencé dès la première journée aussi. Il y en a eu pas mal aussi.
Ouais.
Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y en a eu autant distribués d'un coup dans plusieurs matchs.
Oui, c'était assez impressionnant.
Est-ce que les arbitres sont réellement au point vis-à-vis de certains règlements?
Ouais.
Je sais pas. Pourtant, d'habitude, on a l'habitude de protéger les arbitres. Là, j'ai envie de dire, va peut-être falloir se remuer un peu le cul avant la fin de la saison et puis voir réellement ce qui se passe parce que non seulement ça va être mauvais pour eux,
ouais.
Ça veut dire moins de. Ils vont être considérés comme des mauvais arbitres, donc pas de compétition européenne, pas de compétition mondiale pour les représentants français. On n'a pas encore vu les cadors, je crois, de l'arbitrage arbitré. Donc, on va bien voir si ça va s'améliorer.
Ouais.
Souvent, c'est un peu pire. Mais bon, il y a la VAR. Des fois, ouais, on se demande réellement à quoi elle sert. Puis bon, ne serait-ce que même pour les gardiens et les sorties, choses comme ça, il va falloir harmoniser les choses. Puisque quand on voit que sur le premier match, il y a un rouge pour une sortie.
Ah, tu voulais en parler, ouais.
Qui est quand même assez costaud.
Donc en gros, Lopez qui sur une sortie, bon, comme il a l'habitude de le faire,
il va puissamment.
Il massacre un Ajaxien.
Le rouge en soi peut être recevable.
Voilà, trois matchs de suspension.
Là, c'est un peu plus discutable. On avait déjà fait le débat. Mais...
comme on disait, c'est sûrement pour l'ensemble de son œuvre depuis le début de sa carrière.
Et le week-end d'après. Donc là, dans la même logique, une sortie de Mandanda, un peu différemment, mais il y a une faute.
Il y a un coup de poing dans Mbolo.
Et l'impact est peut-être moins fort, en tout cas, parce que le joueur se relève quand même assez vite. Et il se prend juste un jaune.
Voilà.
Avec derrière, bon, sanction équivalente, il y a pénalty, ok. Mais voilà, où est le curseur, en fait, réellement, par rapport à ça? Sachant que les deux gardiens étaient hors de leur zone, logiquement, ça devrait être le même tarif. Quoi.
Mais moi, c'est un sujet, moi, l'arbitrage en France, qui m'intéresse beaucoup et que je trouve que c'est un vrai, vrai, vrai problème. À la fois sur le plan professionnel, où effectivement, on n'a pas les meilleurs arbitres en France, et surtout au niveau amateur, il y a déjà un non-respect sur pas mal de. On a vu des affaires récemment sur des arbitres qui sont agressés après des matchs de football, mais aussi sur la qualité des arbitres, comment ils sont formés. Pour mon exemple personnel, je pratiquais encore du handball l'année dernière, et il y a eu pas mal d'arbitrages vraiment exécrables où tu te demandes où est-ce qu'ils ont été formés, mais à la fois aussi on n'encourage pas assez les gens à s'engager, parce que c'est aussi des gens qui sont bénévoles, donc on est obligé de les respecter. Donc voilà, et pour moi je pense que ça vient un peu de je dirais même l'État qui doit investir dans l'arbitrage et dans la formation de ça.
C'est la Fédé, c'est la Fédé
toutes les Fédés voilà qui font ça. Toi d'ailleurs, Faustin, qui pratique donc un peu de basket à Avril, c'est ça?
Ouais.
Toi, pareil, est-ce que tu as eu des problèmes avec des arbitres mal formés? Ouais. Peut-être des manques d'arbitres aussi dans le club? Ou pas
non,
tellement?
Dans le club, ça va. En général, ils nous demandent un quota d'arbitres par équipe.
Oui, c'est ça.
D'arbitres officiels. Mais dans certains de mes matchs, des fois, c'est vrai que c'était. Il y avait des choses où même moi, une faute technique sifflée sur un rebond offensif, très très litigieuse, qui nous donne les arbitres nous donnent des explications. Pas très construite, ils ont un peu paniqué sur le coup et ils sont un peu têtus souvent les arbitres. Ouais. Mais ouais, c'est ça, peut-être un manque de formation. Je sais pas comment elles se font les formations d'arbitres officiels. Je sais pas, faudrait peut-être aussi revoir des arbitres un peu vieux qui refassent des formations, qui revoient certaines choses.
Donc ouais, je pense que c'est un vrai sujet. On en parlera peut-être plus tard. Hein.
En tout cas, si on peut faire l'exemple d'un sport qui est plus individuel, on va dire. Comme le judo, moi pour avoir été commissaire sportif, j'ai connu du monde qui a été arbitre, Yann pourra aussi en parler aussi bien que moi, mais c'est vrai que dès qu'on rentre au niveau départemental, on a vraiment des stages en début de saison pour nous refaire des mises au point, on nous forme, on a un examen à passer, qu'on soit validé une première fois ou pas, on le repasse toujours.
Ouais.
Quand on fait le recyclage, si tu l'as pas tout de suite,
il y a
toujours moyen de s'améliorer, mais il y a toujours en début de saison une reforme. Et je trouve ça intéressant parce que ça te permet de te remettre dedans, parce que tu fais pas forcément aussi toutes les compétitions. C'est en fonction de tes disponibilités, c'est en fonction de il faut faire aussi tourner tout le monde. Enfin, c'est.
Je suis d'accord, c'est un très bon exemple parce que.
Enfin voilà, là-dessus. Alors, c'est peut-être aller 2-3 dates en début de saison, à peu près. Et en cours de saison, il y a toujours aussi un briefing avant les compètes. Mais c'est vrai que quand on voit les préparations d'arbitres, t'as plus l'impression, quand ils se réunissent, c'est un peu, on se retrouve entre potes et puis on fait une journée. Ils se disent, le règlement, il y a eu ça. Bon, monsieur, allez-y, vous appliquez ça. Mais il faut peut-être revenir aussi sur les bases, choses comme ça. Enfin, voir aussi ce qui se fait à l'étranger. Si on compare le foot anglais et le foot français, en Angleterre, on laisse plus jouer le jeu. Enfin, c'est pas dès qu'il y a un mec à terre, on siffle, quoi. On laisse l'action.
T'es aussi un peu sur la mentalité des joueurs.
Il y a aussi
France,
ça, oui.
Beaucoup, ou quoi, alors
c'est vrai, t'as raison. D'ailleurs, c'est très variable des sports aussi. Nous aussi, par exemple, au handball, on respecte beaucoup l'arbitre, mais il y a quand même des contestations. Mais par rapport au football, c'est un autre monde. Par rapport au rugby encore, où pareil, ils sont encore plus respectueux. Et puis même au judo, alors là, c'est encore plus respectueux des règles, de tout ça, du respect.
De toute façon, à partir du moment où tu commences à lever la voix,
c'est direct.
On réfléchit pas, on prévient, puis tu continues,
Formation dernière, Mais en tout cas, c'est un sujet hyper intéressant. Peut-être qu'on pourra un jour, c'est une idée comme ça, mais on pourra peut-être un jour recevoir un arbitre, ça pourrait être intéressant. Mais c'est un vrai sujet. Moi, je trouve que c'est important d'en parler et que il y a certaines personnes, surtout certaines instances, qui devraient faire plus pour l'arbitrage en France. Vous parler des résultats de Ligue 1, parce que même s'il y a pas mal de rouges, il y a aussi pas mal de buts qui ont été inscrits ne serait-ce que ce week-end, il y en a eu 40, plus de 40. C'est déjà une très belle performance pour la Ligue 1. Alors, Lyon a battu 3-4-1, donc là, la deuxième victoire des Lyonnais. Lens a battu Monaco également sur le même score, 4-1, c'était au stade Louis II. Marseille reste invaincu avec cette victoire contre Nantes, 2-1. Strasbourg et Reims se sont partagés le nul 1-1. Pareil pour Toulouse et Lorient, 2-2. Auxerre a battu 2-1 dans Montpellier dans ce fameux match où donc ils ont terminé à 9-9. Clermont a battu Nice 1-0. Brest, comme on l'a dit, a battu Angers 3-1. Rennes a battu Ajaccio 2-1. Et surtout, la, on va dire, on peut dire une masterclass du PSG.
Le match de tennis.
Le match, c'est plus du tennis parce que c'est 7-1. Donc, voilà, c'était 7 buts du PSG contre Lille. Voilà, c'était clairement un match.
Avec le but, enfin, le co-but le plus rapide de la Ligue 1, 8 secondes.
C'est ça, en 8 secondes d'Mbappé. Fallait être présent rapidement, hein, sur le match pour le voir. Et donc, voilà, pour le PSG. Messieurs, juste pour terminer un peu sur le foot par rapport justement à la Ligue 1 et au PSG, est-ce que vous pensez que cette suprématie du PSG va peut-être un peu ternir l'image de la Ligue 1, ou est-ce que c'est plutôt bon signe pour l'Europe, pour eux, ou est-ce qu'on va se focaliser sur d'autres trucs.
En tout cas, en termes de jeu, il y a des choses intéressantes.
Ouais, on prend du plaisir quand même à regarder l'équipe.
Enfin, ça a l'air de mieux tourner le trio. Mm-hmm.
Par rapport à l'année dernière.
Par rapport à l'année dernière, ouais. Ce qui est peut-être inquiétant, c'est que il va falloir voir au moins jusqu'à 6e ou 7e journée, voir les résultats du PSG. Mais si à chaque week-end ils mettent des valises comme ça,
ouais.
Clairement, le championnat il sera cloué très vite là-dessus. Et après, est-ce que ça va réellement les servir pour la Champions League? Je sais pas. Et puis il y a cette incertitude, c'est qu'il y a cette Coupe du Monde aussi qui va tout casser. Hein.
Beaucoup de choses parce
qu'il va tout casser. Donc
une semaine d'intervalle entre les matchs de Ligue 1 et les matchs de Coupe du Monde. Donc
en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Paris fait un prix au sérieux le début du championnat.
Ouais.
Là, il vient de marquer un gros coup quand même. On va dire à l'adversaire direct.
Oui.
Prochain match, c'est contre Monaco. Monaco qui est un petit peu à la peine en ce moment. On va voir, mais si c'est le même score, là, ouais, je pense qu'on attendra les matchs contre Lyon et Marseille avec impatience pour voir réellement ce qui se passe. Et je pense qu'une fois que ceux-là ils vont être passés, on verra réellement le niveau du PSG, en tout cas sur la Ligue 1.
Ouais.
Et après, ouais, ça peut être encourageant, effectivement, en termes de construction, tout le travail qu'il est en train de faire Galtier.
Tu vois, qui devient intéressant. Ouais.
Ouais.
Au niveau du classement, d'ailleurs, on va faire un petit point, même si ça n'a fait que 3 journées. Donc le PSG est premier avec 9 points, hein, 3 victoires en 3 matchs. Ensuite, Lens et Marseille avec 7 points. Il faut savoir que Lyon, donc, qui est 4e, a également 2 matchs et 2 victoires, mais donc un match en moins.
Contre
Lorient. Ça aussi, on n'en a pas parlé. C'est une vaste blague, mais on ne reviendra pas dessus parce que sinon on va trop parler de foot.
C'est un peu bizarre cette histoire de pelouse qui n'était pas homologuée. Il y a eu le festival interceptique
de Lorient.
De Lorient sur
qui est là
pelouse.
Chaque année, on rappelle.
Voilà, c'est aux mêmes dates.
C'est pas nouveau. Et la pelouse était jaune.
La pelouse, apparemment, n'était pas en état, selon les Lyonnais.
Et la FP qui est venue voir. Quand même.
Voilà, ils ont fait une réclamation auprès de la Ligue. La Ligue a validé. Mais Lorient avait l'air de dire que apparemment
ça allait, mais bon,
c'était pas pire que d'habitude. Donc après, c'est clairement un gros problème de calendrier,
d'organisation. C'est dingue que la LFP n'y pense pas.
C'est limite 2 jours avant le match qu'on s'en rend compte.
C'est hallucinant. Moi, je trouve ça hallucinant.
Une semaine, ça aurait été géré. Voilà, on inversait au niveau du calendrier et puis c'était fini.
Moi, ce que je trouve très culotté de la part du président de Lorient qui a dit sur Twitter, c'est d'accuser les Lyonnais de remettre la faute sur les Lyonnais qui ont voulu mettre pression soi-disant sur la LFP, ce qui est peut-être possible, mais ce qui est légitime quand on a une pelouse d'un état pareil. Mais bon, on va pas.
Non, mais en tout cas, de base, il y avait un problème.
Oui, de toute façon.
Qui aurait pu être anticipé.
C'est ça le principal problème. Tu as raison. Au niveau de la fin du classement, les équipes qui sont le plus en difficulté, c'est notamment 3 et Reims. 3 qui a 3 défaites en 3 matchs. Donc voilà, bon dernier avec 0 points. Avec seulement 1 point, nous avons Ajaccio et Reims qui sont mal partis. Et puis nous avons les Angevins qui sont 17e à la différence de but, à égalité de points avec encore Strasbourg, Nantes et Nice. Et donc voilà, les Angevins qui vont essayer de se reprendre contre 3 ce week-end. Ce sera à 15h à 3, et donc voilà, faut que le SCO gagne ce match, parce que sinon ça devient problématique, surtout que voilà, 3, pour avoir vu jouer 3 donc contre Lyon, cette équipe est assez catastrophique, et en plus ça apparemment l'antenne, c'est pas ouf, donc à voir ce que le SCO est capable de faire.
Beau départ de Lens sur la continuité de ces deux saisons, hein.
C'est vrai, peut-être que cette année ils pourront aller chercher l'Europe. Petite pause musicale. Et puis on revient juste après, on passera la main à Faustin pour nous parler de Bill Russell. Qu'est-ce que tu nous proposes, Cédric ?
On va écouter un son à l'ancienne du Sun 41.
C'est parti.
Complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far.
Retour dans Génération Sport pour la suite et fin de votre émission. On passe le coucou à Max qui nous écoute donc en direct sur le 101.5 FM de Radio G ou sur www.radio-g.fr. Tout de suite, c'est la rubrique, oui, la chronique de Faustin. Tu vas nous parler d'une légende du basket américain qui nous a quitté donc il y a quelques semaines de là.
Ouais, exactement. Donc je vous parlais de Bill Russell qui est donc, comme tu l'as dit, décédé le 31 juillet 2022. Il avait 88 ans. L'occasion de lui rendre hommage en revenant sur sa carrière. Donc Bill Russell est né le 12 février 1934 à Monroe en Louisiane. Il a grandi dans la ségrégation américaine et en tant qu'Afro-Américain, lui et sa famille ont énormément souffert de cette ségrégation au point de déménager de sa ville natale à l'âge de ses 8 ans. Ils ont déménagé à Oakland en Californie. Là-bas, il connaîtra la misère des quartiers défavorisés. Cependant, il essaie quand même de se tourner vers le sport au collège, mais malgré sa grande taille, il a du mal avec le basket. Cependant, il reste un très bon athlète en sprint ainsi qu'en saut en hauteur. Il arrive malgré tout à se faire repérer lors de ses années de lycée, où notamment grâce à son style défensif hors du commun pour l'époque, car c'était le seul joueur à s'étonner à cette année à sauter dans la raquette pour bloquer ses adversaires, ce qui lui a valu d'être repéré par les scouts des universités. Il rejoint donc l'université de San Francisco, qui est assez peu cotée et où le niveau en basket est assez faible. Une fois de plus, son équipe est victime d'actes racistes et ont du mal à se faire respecter dans cette ligue universitaire. Cependant, le talent parle et l'équipe de San Francisco arrivera à décrocher ses deux premiers titres universitaires sous l'ère Bill Russell. Il devient ainsi le premier joueur afro-américain à remporter un titre universitaire. La même année de ce deuxième titre universitaire, Bill Russell sera capitaine de l'équipe olympique des États-Unis, où ils remporteront la médaille d'or en 1956 à Melbourne. C'est encore une fois cette même année qu'il sera drafté en NBA par les Boston Celtics. Après de nombreux trades avec les Royals de Rochester, il est drafté en première position. C'est le début d'une des plus grandes carrières NBA. En effet, Bill Russell deviendra le joueur le plus titré de toute l'histoire de la NBA, avec 11 titres en 13 ans de carrière, et ses 11 titres avec les Celtics en 13 ans de carrière avec les Celtics. Il fait partie des deux seuls joueurs à avoir capté plus de 50 rebonds au cours d'un seul et même match. C'est en effet une autre époque. Maintenant, les plus grands matchs sont à 20 rebonds maximum. L'autre joueur à avoir réussi cette prouesse est Wilt Chamberlain, son rival de toujours et l'homme qui avait marqué 100 points en un match. Bill Russell a aussi reçu 5 fois le titre de MVP et a été sélectionné 12 fois au All-Star Game. Malgré ses quelques difficultés offensives, il marquera quand même 14 522 points tout au long de son immense carrière. Il prendra sa retraite en 1969, mais il ne coupe pas les ponts pour autant avec la NBA, car il prendra la tête du banc des Supersonics de Seattle de 1973 à 1977, puis celui des Sacramento Kings lors de la saison 1987-1988. Il sera ensuite introduit au Hall of Fame en 1975 pour son immense carrière. Il est donc devenu une des plus grandes figures du sport américain et est proclamé comme le plus grand sportif afro-américain de tous les temps. C'est pour cela que une semaine après son décès, la NBA a décidé de retirer son numéro 6 d'absolument toutes les équipes NBA. Il est le seul joueur à avoir eu cette reconnaissance de la part de la NBA.
Donc voilà, un grand monsieur de la NBA qui nous a quitté.
Du sport américain en général.
Ouais.
Et c'est quand même rare qu'on retire. Enfin, un numéro, généralement, dans l'équipe. C'est vrai qu'aux États-Unis, ça se fait beaucoup, mais plus à titre quand on prend notre retraite.
Son numéro était de base retiré aux Celtics.
Voilà.
Et là, c'est la NBA.
Mais là, c'est carrément la NBA qui décide d'enlever le tout numéro 6. Ouais. Ça a peut-être posé des problèmes dans certains vestiaires, on sait pas.
LeBron James portait le numéro 6, mais il me semble, si j'ai bien compris, les joueurs qu'il avait la saison précédente pourront le porter, mais plus personne ne pourra de nouveau porter.
Oui, ok. Retiré pour.
Mais enfin voilà, je trouve que pour quelqu'un qui a réellement marqué l'histoire de son sport, pour toute la portée qu'il a eue, oui, je pense que c'est un très beau geste de la part de la NBA de faire ça. Quoi.
Je crois qu'en plus en dehors des terrains, il était assez grande gueule. Il aimait bien chambrer.
Il était aussi très investi justement dans la lutte des Afro-Américains pour qu'ils soient bien introduits en Amérique. C'est aussi pour ça qu'ils lui ont remis cet hommage en retirant son numéro. Par exemple, Kobe Bryant qui est lui aussi décédé, ils n'ont pas décidé de retirer son numéro pour toute la NBA.
Très bien. Eh bien, merci de cette petite chronique qui nous permet de mettre la lumière donc sur une vraie
légende.
C'est
ça, c'est ça. Le côté rétro
c'est ça.
Du sport quoi.
Donc,
qu'on aime aussi.
Qu'on aime aussi, effectivement. On viendra vers toi pour parler un peu de l'actu du basket en ce moment. C'est vrai qu'on fait un petit point, donc on parlait un peu de...
Peut-être un petit point tennis, par exemple.
Alors oui, tennis, je voulais en parler un petit peu. Donc Caroline Garcia, qui a donc, comme vous l'avez peut-être entendu parler, a remporté le tournoi de Masters 1000 de Cincinnati.
Cincinnati, ouais.
Et donc voilà, c'est un tournoi assez important, qui lui rapporte pas mal de points, notamment au classement WTA. Et qui surtout...
On est à une semaine de...
Elle avait déjà gagné un tournoi, déjà, je crois, 2-3 semaines auparavant. Donc c'est, elle revient vraiment à son meilleur niveau.
Non, puis surtout, on est à une semaine de l'US Open.
Ouais, donc c'est vraiment une très bonne chose.
Et généralement, c'est vrai que ce tournoi-là est très bien pour se préparer. On est quasiment dans les mêmes conditions. Quoi.
Il faut savoir qu'elle a gagné 18 places à la WTA, donc en revenant 17e. Donc une performance assez intéressante pour Caroline Garcia.
Les Français peuvent gagner au tennis.
Eh oui, ça arrive. Ça nous arrive certaines fois. Sinon, donc on parlait d'athlétisme avec aussi certains Français. Donc comme on l'a dit, qui ont brillé sans trop d'éclat, qui sont allés chercher leurs médailles. Donc c'est quand même des médailles internationales. C'est pas rien. Mais on aurait pu espérer mieux pour certains. Je pense notamment aux 110 mètres haies avec Pascal Martineau-Lagarde qui échoue à vraiment un millième de la médaille d'or et qui donc se contente de l'argent. À noter quand même la bonne performance de la médaille de bronze pour Kwao Maté, je crois que c'est ça son nom, j'espère ne pas l'écorcher, c'est ça Kwao Maté, qui a quand même eu donc cette médaille de bronze, tandis que Sacha Zoya a trébuché et tombé dans cette finale donc des championnats d'Europe. Parmi les autres bons résultats, on a eu les relayeurs du 4x100 mètres hommes et 4x400 mètres hommes qui ont gagné les médailles d'argent pour les deux. Donc voilà, c'est plutôt des bons résultats. René Lamotte en 800 mètres a gagné le bronze. Wilfried Apio a gagné l'argent en 400 mètres haies, notamment. Et également Yann Schrub qui a gagné le bronze lors du 10 000 mètres. Voilà pour ces championnats. Cédric, c'est vrai que c'est à la fois rassurant, mais à la fois pas...
Si on doit faire le bilan des deux championnats majeurs, il y a eu un petit peu plus de réussite en termes de chiffres, on va dire, en Europe, mais on sait que l'athlétisme français est malade. Ça, c'est là le problème, c'est qu'on sait qu'il y a des soucis. Mais c'est là qu'on a peut-être de très belles perles, en fait, en ce moment.
Ouais.
Qui performent bien au niveau France. Et derrière, arrive dans le tour de qualification, ça passe bien. Et dès qu'on commence à se rapprocher des quarts, demi, tout ça, c'est là que ça pêche. Alors, ouais. Est-ce que le niveau aussi à l'étranger, c'est pas amélioré? C'est fort possible et fort probable. Mais c'est vrai que depuis même les JO, enfin, on avait vu ce déclin de l'athlétisme. Là, on a retrouvé des titres par équipe sur les relais, ouais, qui est un peu une spécialité française. Généralement, il y a toujours eu au moins ça. Mais on perd à la perche, par exemple, on n'a plus de titres. Enfin, on n'a même pas de médaille. Bon, c'est vrai qu'il y a un monstre à la perche. Donc, oui, de toute façon, je pense que pendant quelques années, on peut oublier.
C'est ça, oui.
Sans blessure,
je pense que c'est le record du monde. Et puis,
voilà, il va se promener tranquillou en hauteur. Mais, par exemple, au décathlon, effectivement, on a été champion du monde. Mais là, on voit que ça a un peu pêché parce que,
Il s'est blessé.
En tout cas, et puis, je sentais déjà
que ça tire un peu.
Ça allait être compliqué d'enchaîner les deux. Mais derrière, il y a un Français qui participait. C'est peut-être là aussi qu'il faut chercher des pépites, former un petit peu plus là-dessus. À l'époque, on était quasiment partout et à un niveau, au moins pour aller chercher soit les deuxièmes tours ou
les finales.
Ou les finales.
Enfin, c'est vrai que maintenant.
Et là, même sur les
épreuves. Les championnats d'Europe, on roulait un peu sur les championnats d'Europe. C'était quand même. Et donc maintenant, ça devient plus compliqué.
Mais tant mieux, quelque part, ça veut dire que bah, faut savoir se réorganiser.
Ouais, c'est ça.
Et pas se reposer sur ses lauriers, quoi.
C'est exactement ça. Il y a également donc une info qui est tombée aujourd'hui concernant la NBA. Alors avant de parler de ça, il y a donc Max qui m'a dit que les Lakers vont retirer le numéro de Pau Gasol. Je sais pas
ouais,
si t'as eu l'info.
Si, ouais, c'est vrai.
Et donc le numéro combien?
Numéro 16, il me
le
semble.
Quiz. Numéro 16, d'accord. Ouais. Donc ils vont le retirer. Il y en a un qui va rester dans son club. C'est Kevin Durant, donc qui va rester au Brooklyn Nets. Il y a eu pas mal de choses de dites parce qu'il voulait quitter, un peu comme Ronaldo au football là, donc qui fait pareil son petit truc.
Comme il fait tous les ans, j'ai envie de
c'est
dire.
C'est ça, et donc il veut quitter le club parce que voilà. Bon, pour des raisons qui regardent, mais pour être plus compétitif. Là, pareil pour Kevin Durant, et qui finalement va prendre le choix de rester. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Est-ce que c'est peut-être un peu un mauvais comportement d'avoir voulu partir, puis rester, ou voilà? Est-ce que c'est quand même un bon choix pour lui ou pour Brooklyn?
Moi, je trouve ça bien qu'il reste là-bas, parce que c'est un truc qu'il a construit, qu'il a voulu construire. C'était le premier à aller au Nets, puis il a rejeté avec lui Kyrie Irving, qui lui aussi avait demandé son transfert, mais du coup, qui l'a annulé suite à cette info qu'a lâché Kevin Durant. Il avait aussi ramené James Harden, qui lui est parti à Philadelphie. Mmh. Mais moi je trouve ça bien, parce que là tout le monde s'excitait un peu de voir Kevin Durant arriver dans son équipe. Dans toutes les équipes on me dit ouais non c'est sûr il va venir chez nous. Moi le premier je disais il va venir à Toronto, c'est sûr. Mmh. Il y avait des rumeurs qui fuitaient partout. Finalement il reste. Ce qu'ils voulaient aussi, c'était changer de coach. Donc c'était Steve Nash, leur coach. Mais il me semble que justement, il y a eu des discussions avec Steve Nash, avec le président, etc., avec le staff. Et tout le monde reste, si okay. J'ai bien compris. Donc, je sais pas ce que ça va donner les prochaines, parce que ça fait plusieurs saisons qu'ils galèrent beaucoup. Là, ils se sont fait sweep, premier tour des playoffs.
Ouais.
Voilà. Après, quand il a signé, il avait signé pour combien d'années?
Pour 4 ans.
Pour 4 ans, ouais.
Il lui restait un an de contrat, je crois.
Et il aurait fallu faire un trade.
Ouais, donc généralement, oui, ça peut se. Enfin, quand c'est la dernière année comme ça, il y a dans beaucoup de sports, ça essaye de racheter le contrat, effectivement. Pour moi, ça n'enlèvera pas qu'il a cette image de mercenaire de club, en fait.
Ouais,
il cherche à les limites dès qu'il y a fin de saison, club champion. Ah, je viens chez vous.
Ouais, c'est ça.
Club champion. Je viens chez vous.
Avec les Warriors.
Ouais,
il y avait des rumeurs qui traînaient vers le Heat ou les Suns.
Pendant longtemps, ouais. À la fin de la saison, c'était un peu ça le projet. Ouais.
Et puis surtout au Brooklyn, ça a été un flop, on peut le dire.
Clairement.
Beaucoup de blessures, ouais, aussi. Donc voilà, peut-être on suivra, peut-être qu'il va se régénérer cette saison. Pareil, je suis en conversation avec Max, qui aura bien fait de venir finalement, s'il voulait participer à l'émission. Selon ses informations, Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille s'est fait à 98%. Ce sont ces infos. Attention, évidemment, c'est ironique, évidemment. c'est évidemment ironique, même s'il en rêverait secrètement, mais effectivement, voilà, c'était son petit message. En tout cas, voilà, l'émission va toucher à sa fin. On va vous laisser avec la suite des programmes. C'est Imaginaire qui arrive juste avec nous, juste après nous, pardon.
Ah, il peut venir avec nous aussi la prochaine fois. Il n'y a pas de souci, on invite tout le monde.
Jusqu'à 22h, vous avez donc Imaginaire. Et puis, on se redit peut-être à la semaine prochaine, sûrement d'ailleurs. Et puis, surtout, la rentrée qui arrive dans deux semaines.
De bien finir peut-être la saison. Faut qu'on voie en fonction du calendrier de l'ouverture officielle de la saison.
Exactement. Vous le laissez avec le générique, puis après c'est Imaginaire. Et puis on vous souhaite une bonne soirée.
Madiv.
Équipe d'imaginaire, une nouvelle équipe un petit peu par rapport à la dernière émission avec Sébastien. Tu vas nous parler de quoi ce soir, Sébastien ?
Alors, je vous parlerai en fin d'émission d'un Chouz Cthulhu qui m'a fortement plu et qui risque vraiment de vous procurer de grandes sueurs.
Donc, les deux dernières sorties de cette collection de livres-jeux interactifs dans l'univers d'H.P. Lovecraft. Enfin, chaque tome s'inspire d'une nouvelle de Lovecraft.
D'une nouvelle ou d'un roman.
Ok, super. Et puis, Karine, tu vas nous parler d'un gros bouquin.
Oui,
que je vois devant toi.
Mais très passionnant. Je vais vous parler de Meute de Karine Renberg, qui a été publié aux éditions ActuSF.
Ok, et on va avoir notre première interview de cette nouvelle saison. Là, on peut dire qu'on attaque notre 11e saison radiophonique aujourd'hui, après une petite pause vacances. Et donc, Sébastien, on va avoir l'interview au téléphone de Jérémy Grima.
Voilà, Jérémy Grima, donc, qui est à l'origine de la collection Carnage, donc, qui reprend un peu les mêmes codes de trash, gore d'anciennes collections très sanglantes.
Voilà. Livre pour adultes avertis.
On s'entend.
Ouais, on va l'avoir au téléphone dans à peu près 15 minutes. Et il nous a fait quelques petites sélections musicales et on va commencer cette émission par son premier choix. C'est Hangman's Chair que j'ai vu en concert il y a 3 jours, je crois, au Motocultor à Saint-Nolf. Petit festival metal punk bien sympathique. Et d'ailleurs, il y avait un market là-bas sur place, et parmi les exposants, il y avait Will Argunas. Will Argunas, qui est le dessinateur de toutes les couvertures de la collection Carnage. Voilà. Ouais. Donc on a papoté un petit peu, ça m'a permis de préparer mon interview qu'on va avoir dans quelques minutes sur le 101.5. Allez, c'est parti avec Hangman's Chair. Hangman's Chair avec le morceau Cold and Distant dans l'imaginaire sur Radio G. Sébastien, tu me disais que toi ça te faisait penser.
Alors, moi, ça m'a fait tout de suite penser à Cosmos Cannibal, voilà, écrit par Jérémy, et ça cadre bien avec la tension qui palpite dans le bouquin entre deux familles qui vont s'affronter, donc avec beaucoup d'effets sanglants.
On lui posera la question dans quelques minutes, mais avant, c'est l'heure de la chronique de Karine.
En effet. Mute est un roman d'urban fantasy entre le fantastique et la fantasy. L'autrice nous fait découvrir le parcours de trois personnages principaux, Nat, Val et Calam. En alternance au fil des chapitres, le premier est un loup-garou habitué à la violence et au combat dans les docks, un quartier pas très fréquentable. Le second est un humain qui a perdu sa voix. Et le troisième est un personnage bien mystérieux qui va déboussoler les habitudes des uns et des autres. Tout le monde devra donc trouver un autre équilibre et les choses ne seront pas si évidentes. Des affrontements pour la survie des loups-garous, des pertes de repères, des liens incontrôlables mèneront les personnages sur une autre voie. Je ne vous en dis pas plus, pour découvrir le parcours de ces personnages très attachants, il va falloir le lire. Karine Renberg... Renberg, pardon, développe surtout les failles et l'évolution des personnages au travers son récit. C'est un roman dit tranche de vie. Il est très psychologique car il met en avant des personnages très humains et leur construction. Elle s'intéresse aux liens que peuvent tisser les personnages malgré leurs différences en mettant en lumière une forte amitié entre loup-garou et humain et ou une meute de loups qui ont tous un caractère distinct, mais également